Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
C'est la deuxième heure, merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet pour son rendez-vous quotidien Télescopage qui met les mains dans le moteur de la mécanique médiatique. Et notre invité, c'est l'humoriste et comédien Roman Frécinet pour son rôle dans le film Les Méchants qui sort aujourd'hui, mais aussi beaucoup d'autres choses. Et puis Marc-Antoine Lebray en fin d'émission pour les stories de Lebray. Bonjour Margot Barallon.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour Philippe Vandel.
Voilà, vous avez entendu le conseil d'Émilie Dez, ne vous habituez pas trop au soleil, ça n'a aucun rapport. Bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, vous observez ici les comportements médiatiques et ce matin, en ce jour d'ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015, vous vouliez revenir sur la tribune que Maryse Wolinski a publiée cette semaine dans le journal du dimanche.
Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre les paroles et les actes. Car si la veuve de Georges Wolinski s'est emparée ce dimanche des colonnes du JDD, c'est pour y adresser une petite piqûre de rappel à Emmanuel Macron. Un texte poignant qui, comme elle a très joliment précisé sur France Info, était porteur d'une espiègle nuance.
Il ne faut pas se méprendre. Cette lettre, ce n'est pas un appel, c'est un rappel.
En effet, Maryse Wolinski y a tout simplement rappelé au président de la République qu'à ce jour, il avait oublié. Oublié d'honorer une promesse qu'il avait pourtant publiquement formulée en janvier 2020.
Nous venons de lancer une mission pour créer en France la maison du dessin de presse et du dessin satirique voulu par Georges Wolinski.
Créer en France une maison du dessin de presse. Alors cet engagement, Emmanuel Macron l'avait expressément énoncé à l'occasion de ses vœux à la presse en regrettant avec des mots très forts la décision du New York Times de ne plus publier de dessins satiriques.
Je souhaite que notre pays continue de ne pas céder à ce que j'appelle cet esprit de lapidation et à cette forme d'ordre moral autoproclamé.
La main sur le cœur, le chef de l'État avait donc rappelé à toute une profession extrêmement inquiète qu'en France, on soutiendrait mordicus les caricaturistes et qu'à titre personnel, il était indéfectiblement Charlie.
J'évoquais à l'instant l'importance des dessins de presse. La France est toujours aux côtés de l'esprit du 11 janvier, de ceux qui défendent la liberté d'expression dans toute sa plénitude.
Et pourtant, ce dimanche, dans sa tribune du JDD, Maryse Wolinski a regretté qu'après ses belles paroles, il ne se soit rien passé. Mais elle a rappelé aussi que depuis ses déclarations élyséennes, un homme, un professeur, Samuel Paty, avait péri sous la lame d'un malade au simple motif qu'il voulait faire réfléchir ses élèves sur de petits dessins. Et puis, elle a précisé ceci à la radio.
Je pense que certains dessins de mon mari ne pourraient pas passer dans les journaux aujourd'hui.
Alors cette déclaration-là, Philippe, est effrayante, mais malheureusement, elle est juste. Car oui, les journaux sont devenus frileux et oui, les dessinateurs ont donc besoin d'une forme de protection républicaine. Étrange paradoxe quand on songe qu'il n'y a pas si longtemps, au 19e siècle, la censure venait de l'État alors qu'aujourd'hui, elle vient du peuple et s'exprime sur les réseaux sociaux. La tribune de Maryse Wolinski nous invite donc à réfléchir sur cette stupéfiante mutation, mais elle se termine par une information. Elle nous apprend en effet que le maire du 6e arrondissement de Paris a proposé de mettre à disposition du projet un lieu situé entre l'École des Beaux-Arts et l'Académie des Beaux-Arts. La seule chose qui manque donc aujourd'hui pour voir naître en France une maison du dessin de presse, c'est une toute petite signature présidentielle.
Merci beaucoup Bruno Donnet pour cet éclairage. À demain. Margot Barallon.
Oui, Philippe.
Quel est le programme de vos indispensables ce matin? On sera aux alentours de 10h30.
Eh bien, on est mercredi, donc ouais. C'est jour de sortie cinéma et j'ai un film absolument magnifique à vous conseiller. Ça s'appelle Serre-moi fort.
Il va être content de vous entendre, notre invité Roman Frécinet, qui a un film à sortir aujourd'hui.
Justement, il a un film drôle. Mais je propose un film très triste. C'est une histoire d'équilibre.
Je plaisante parce que justement, il y a de la place pour tout le monde. C'est comme en librairie, il n'y a pas un seul livre. Quand il n'y a plus qu'un seul livre, c'est que ça va très, 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 très mal. Stéphanie Loire.
Bonjour Philippe Vandel. De la musique, il y en a beaucoup. Ce matin, ouais. Je viens vous parler de Grand Corps Malade, le slammer qui est aussi, surtout, avant tout, un artiste pop et de son nouveau projet musical.
Et il y a des musiciens également dans le film Les Méchants. Roman Frécinet, comédien, sera avec nous. Mais d'abord, musique, c'est Aretha Franklin sur Europe 1.
Just a little bit.
Respect, vous avez reconnu Aretha Franklin sur Europe 1 et je voulais signaler qu'à l'occasion de la sortie de ce film Respect, Stéphane Bern va raconter le destin d'Aretha Franklin sur Europe 1. Ce sera dans Historiquement Vôtre tout à l'heure à partir de 16h. Et puis dès 20h dans Musique, Stéphanie Loire, que vous allez retrouver dans quelques minutes, proposera elle une émission spéciale avec des extraits du concert Musicorama de mai 68. Quel document Culture Média continue.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Roman Frécinet.
Bonjour, comment ça va?
Je vais très bien, j'allais vous poser la même question.
Eh ben ça va très bien, le rythme est intense mais on est très heureux d'être là.
Vous êtes humoriste, vous êtes comédien, vous faites des one man shows, la presse vous présente comme un surdoué. Déjà en 2019, Télérama vous qualifiait de prodige. On peut vous voir dans l'émission Clic de Mouloud Achour sur Canal+. Et si on ne vous voit pas, il y a des millions de vues puisqu'ils ont tout ça est disponible sur MyCanal ou sur YouTube. Et justement, votre actualité, c'est un film, le premier film de Mouloud Achour qui sort aujourd'hui. Ça s'appelle Les Méchants. Alors c'est un film tellement difficile à décrire, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la bande-annonce.
J'allume la télé pour regarder ma série. Sur la 1, il y a les méchants. La 2, il y a les méchants.
Ah, on est dans la merde, là.
Non, non,
non. Écoutez les vidéos de nous partout, à la télé, sur Internet, ils disent qu'on est les méchants et qu'on va faire sauter la planète.
Cravard.
Les deux individus qui sont avec toi sont recherchés de partout.
Monsieur Matou Basni, vous êtes expert?
Oui, je suis expert.
Ceux qu'on vient de voir sont des méchants barbus. Je suis désolé.
À ma gamme.
Négociation, ça vient du latin négocium.
Bienvenue dans le monde du show business.
Je vais vous déglinguer la gueule et ça va très bien se passer.
On a peur de la police.
Ah, vas-y, ta gueule avec ta tête de puceau, là.
Est-ce que je peux vous poser une question? Qu'est-ce qu'ils ont acheté exactement?
Un jus antioxydant.
Antioxydant.
Non, non, mais ne commençons pas à accuser les gens sur des mauvais jeux de mots.
La grosse moula, poursuivie par les méchants.
Nous, on est des gentils, nous, à la base.
C'est une bande-annonce très bien faite parce que ça donne très envie de voir le film. Moi, je l'ai vu, mais pour qui ne l'a pas vu, on ne comprend rien. Que raconte le film? Est-ce que vous pouvez raconter l'histoire, au moins les prémices, au moins le synopsis?
Ouais, alors déjà sur cette histoire de bande-annonce, ça nous tenait à cœur en fait de réussir à faire une bande-annonce qui donne envie de voir le film et qui dévoile pas des choses du film. On en avait marre d'être déçu en fait de voir des bandes-annonces qui nous donnent envie et d'arriver devant le film et en fait les meilleurs moments on les a déjà vus dans la bande-annonce. Mais en gros le film c'est deux êtres assez différents que sont Patrick et Sébastien qui se rencontrent et qui finalement se retrouvent accusés par un média d'être les plus grands méchants de France. Voilà, suite à une fake news en fait.
Alors on a compris que c'était un film comique, mais on se contente pas de rire, on réfléchit également. Ouais. Qui sont ces méchants? Vous êtes en binôme avec un humoriste qui s'appelle Jimo.
Ouais, il est exceptionnel.
Qui est votre personnage? C'est Patrick et Sébastien, vous êtes Sébastien. Qui est Sébastien?
Bah Sébastien, c'est un personnage qu'on peut décrire comme une galère, moi je dirais ça. C'est une embrouille, c'est quelqu'un qui passe son temps à parler mais qui fait rien. Il est persuadé qu'il a tout compris, il passe son temps à embrouiller tout le monde. Il faut partir du principe que s'il te parle, c'est qu'il est en train d'essayer de t'arnaquer. Mmh. Voilà, en gros, c'est un mec un peu perdu qui met des embrouilles à tout le monde et qui est persuadé qu'il va monter des applications à tout va, etc. Mais c'est vraiment un parleur, quoi, pas un faiseur.
Il y a un casting de guests assez impressionnant. Mmh. Je vais citer Ludivine Sagné, Kian Kojandi, Mathieu Kassovitz, Samy Nasseri, Pierre Palmade, Omar Sy, et j'en oublie.
Ouais.
Mouloud Achour, réalisateur, a expliqué que vous avez été l'accélérateur du projet. Dans quelle mesure? Quel est votre rôle? Vous êtes plus que comédien dans ce film.
Alors en fait, je pense que c'est au moment où il m'a rencontré, il s'est mis à vouloir écrire vraiment le film, quoi. Après, accélérateur, je pense pour lui, parce que lui, voilà, c'est lui qui a vraiment monté le projet, etc. Mais je pense que quand il m'a rencontré, il s'est dit qu'il aimerait que je joue ce personnage.
Ouais.
Et donc, il a vu les choses devenir concrètes. Et voilà, moi, il m'a envoyé le scénario le jour de mon anniversaire. Il m'a dit, voilà, j'aimerais que tu le joues. Je lui ai dit oui. Et depuis là, ça s'est enclenché. Voilà.
Vous savez que pour l'instant, personne n'a rien compris à l'histoire. On va entendre un extrait. Mais même avec l'extrait, on ne comprend rien. Vous allez nous aider à le situer, cet extrait.
Ça, on ne l'a pas vécu, ça.
Mais la boule, elle est à moi. Je te l'ai acheté, non?
En vrai, c'est la boule à Patrick.
C'est quoi, Patrick?
C'est ça, Patrick.
C'est ça, Patrick?
Ouais.
Ah, si.
C'est quoi qui boit, là, dans ce gobelet, là?
Bah, dedans, il y a des feuilles de coco, du shit de Ketama, du Guronzan, du Stilnox, du crack, caféine, cocaïne, neuroleptique, guarana, LSD, huile de truc, extase, psilocybine, col, muscarine, un tout petit peu de fanta citron et une lichette de Zombretto.
Là encore, c'est lunaire.
Ouais, c'est lunaire. En fait, c'est vraiment un film qui se raconte pas, quoi. C'est ouais. un film qui se voit. Je pourrais prendre le temps de le raconter, mais c'est la puissance des images.
Non, parce qu'on aura fini à 11h.
C'est ça, exactement.
Pour le raconter, il faut le faire en temps réel. Ouais. En le regardant, je me disais, mais comment je vais résumer ça? Je peux pas. Il faut. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a un rappeur qui sort de prison.
Oui, il y a tout ça. Il y a aussi un plateau de télé en simultané. Enfin, c'est des histoires qui s'embriquent, mais qui au final. Dresse un portrait de notre société avec beaucoup d'humour et une belle justesse et qui appuie à des points qui font un peu mal, quoi.
Alors Mouloud Achour disait qu'il voulait pas de parodie, c'est pas tout à fait une parodie, mais parfois il y a des moments parodiques irrésistibles. Il y a par exemple une parodie du film Entre les murs, oui. qui s'appelle Entre les chaises.
C'est à mourir de rire, ouais. à ce moment-là. Ouais, moi je dirais que tout le film quelque part est une satire d'un petit peu de notre époque, ouais. Voilà, mais oui, il y a ce moment parodique qui est un moment hilarant du film.
Et puis, il y a également une critique de la télévision.
Ouais, une critique en fait du sensationnalisme dans les médias, ouais. je dirais. Ouais.
Vous savez quoi ? Ici, on a un média, c'est un des sujets qui nous passionne ici dans Culture Média. Roman Frécinet, reste avec nous, on en parle, ça s'appelle Les Méchants, et nous, on est les gentils. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blandel.
En compagnie de Roman Frécinet, humoriste, comédien. On n'a pas encore parlé de son métier d'humoriste. Là, on parle de son métier de comédien. Il est à l'affiche du film Les Méchants, premier film de Mouloud Achour qui sort aujourd'hui. Je l'ai dit, c'est un film à la fois parodique et sérieux, mais beaucoup plus parodique que sérieux. Quoique Mouloud récuse le terme de parodie, mais il y a quand même en creux une critique de la télévision, une critique des chaînes d'infos. Il y a notamment une présentatrice blonde. Décidément, c'est la tendance. Je pense à France, le film de Bruno Dumont, où il y a une présentatrice blonde qui pense un peu qu'à elle. Là, cette fois-ci, elle est jouée par Ludivine Sagnier. Elle anime une émission de débat sur une chaîne d'infos. Extrait.
Nous avons réuni des experts, des spécialistes, car nous vous devons des explications. Monsieur Matoubasni, vous êtes expert ?
Bonjour, oui, je suis expert.
Est-ce que selon vous, on peut dire qu'on est face à un individu dangereux ?
Est-ce que selon moi, on peut dire qu'on est face à un individu voilà. dangereux ? Oui.
Ah.
Mais on peut tout dire, hein, sur cet...
Ça vous fait rigoler encore.
Moi,
à l'entendre.
J'adore. Ouais. C'est Hakim Djemili qui joue ce personnage d'expert, qui s'invente expert. Et je trouve ça tellement juste et tellement bien joué, tellement marrant. Moi, je rigole à chaque fois.
On en a vu beaucoup au moment de la crise du Covid. Tous ces experts en vaccin, tout d'un coup, on ne savait pas d'où ils sortaient.
Eh oui, les faux experts. Enfin, c'est marrant puisque, en fait, Hakim, le rôle d'Hakim, il est dissimulé déjà des plans avant dans le film. Et à un moment donné, il est présenté comme un expert et c'est très, très marrant. Puis c'est très juste de la part de Mouloud, encore une fois.
Mouloud Achour a raconté que la première étincelle des méchants est partie des attentats du 13 novembre. Quel rapport ?
Alors en fait, de ce qu'il dit, c'est que lui, il avait donc monté Click, son média, et il venait de faire une interview de Kanye West, et qui avait vraiment fait du bruit dans le monde entier et tout, donc c'est super, c'est un bel accomplissement. Et finalement, il était invité dans des médias, et une fois invité, la première question qu'on lui posait, c'est est-ce qu'il était solidaire des attentats ? Et ça l'a choqué. Parce que...
Des attentats, c'était l'époque de Je suis Charlie.
Exactement.
C'est-à-dire qu'il faut dire ce qui est, c'est qu'il est dans un média Click, et ouais. en même temps, Mouloud Achour, il a un nom qui peut porter, enfin, l'amalgame est fait très très vite.
Exactement, et lui, il s'est dit, donc en fait, c'est une question qu'on ne pose pas à tous les Français, en fait. Pourquoi, moi, je serais... Comment dans la tête des gens, c'est possible qu'ils soient solidaires des attentats ?
C'est des ça, auteurs en fait. Des attentats ? Des auteurs des attentats ou des victimes des attentats ?
Ah non, mais solidaire des... Oui, voilà, c'est ça, exactement, on s'est compris. Des victimes, voilà, non, voilà. Mais solidaire...
En gros, est-ce qu'il est Charlie, en ouais. s'appelant Mouloud ?
Non, c'est est-ce qu'il cautionne ou pas les attentats ?
Enfin tout. Bref, voilà. L'interrogation qu'on a tous les deux, et cette incompréhension-là, donne le point de départ du film.
Oui, en fait, le fait qu'il ait le sentiment qu'on a mis à part de la société une partie de la population à ce moment-là, en leur demandant de se désolidariser, alors qu'ils étaient déjà désolidarisés, voilà... De ce genre de gestes, quoi.
D'où la question et le titre, qui sont les méchants ?
Qui sont les méchants, exactement. Partir à la recherche des méchants et choisir un mot enfantin pour parler des méchants. Voilà, c'est un des trucs que je trouve très malin de ce film.
Oui, c'est qu'on parle, on est avec des experts qui pourraient être des sociologues, des philosophes. Et à la fin, c'est une conversation de cours de récré.
Exactement.
T'es un gentil ou t'es un méchant, moyenne section de maternelle.
Exactement.
Je reviens à la télévision parce que dans les chroniques que vous faites à la fin de l'émission Click, justement, il vous est arrivé de parler des débats à la télévision, Roman Frécinet dans ses œuvres.
Il y a un truc dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, une espèce de réflexion. En fait, hier, je regardais un débat à la télévision. Et je crois qu'en vrai, la majorité des débats, ils sont sans fin. Vraiment, hier, je regardais deux individus, et pendant une heure, peu importe de quoi ils parlaient, C'est comme s'il y en avait un qui disait « C'est Jack Sparrow !» et l'autre disait « Non, c'est Johnny Depp !» et l'autre disait « Non, c'est Jack Sparrow !» Ne me coupez pas la parole, c'est Johnny Depp. Et heureusement que le présentateur, il a lancé la météo, sinon, les gars, ils avaient des arguments à l'infini. Il y a des gens, ils défendent des points de vue comme des chevaliers du point de vue pendant des heures, genre « En garde, point de vue contre point de vue !» Et le truc avec un point de vue, c'est que par définition, si tu te déplaces, ça change. À un moment donné, j'avais envie de leur dire, mais mettez-vous du même côté de la table, peut-être vous allez voir les choses de la même manière, je ne sais pas, j'essaie de trouver des solutions, moi. C'est vraiment comme s'il y avait un mec en Australie et un mec en France, et pendant deux heures, ils se disent « C'est l'été !»« Non, c'est l'hiver !»« Non, c'est l'été !» Mais on perd beaucoup d'énergie, là, les amis.
Évidemment, c'est drôle, mais évidemment, vous y avez réfléchi. Ça vous agace vraiment, les débats comme ça, les débats...
Bon, en fait, ce qui m'énerve, c'est quand on passe des heures à faire de la rhétorique, en fait. Alors que souvent, je pense que les gens, ils sont pas si éloignés que ça. Les gens se comprennent. Je pense que les gens défendent souvent des positions plus... En fait, les gens cherchent le débat plus que le dialogue.
Qui sont les gens ? Vous voulez dire les gens qui font les émissions ou les gens qui sont chez eux, devant leur poste et qui les regardent ?
Mais même en France, c'est quelque chose d'assez culturel. On aime bien, on aime bien débattre à l'infini. Voilà. Si on est d'accord, on a le sentiment qu'on n'a plus rien à se dire. Donc on aime bien, voilà, t'es pour, contre ça, tac, puis on débat. C'est un truc, on aime bien, c'est un peu notre sport national.
Mais vous connaissez le paradoxe pour les chaînes d'infos, c'est que le débat fait de l'audience.
Eh ben oui,
et que si on entend, s'il y a des personnes qui discutent calmement, argument contre argument, et à la fin, on dit « oui, c'est vrai, voici le point de vue qui prévaut », ça marche pas en audience.
Ben, je comprends bien, mais c'est ça que je trouve très dommage. On cherche pas à mettre les gens d'accord, on cherche à trouver ceux qui vont se battre de manière la plus spectaculaire. Et je ne suis pas sûr que ça rende service à la réflexion globale.
Des élucubrations faussement larguées, qui est un peu votre personnage d'humoriste, comme ça, pendant 10 minutes, c'est beaucoup de travail ?
C'est beaucoup de travail, faire croire qu'il n'y en a pas, ouais. C'est le résultat aussi de beaucoup d'heures de essayer de peaufiner un certain style, et puis essayer de respecter l'intelligence des gens. Moi, ça a toujours été ça, mon truc. Je me suis dit, les goûts, c'est toujours difficile. Faire rire quelqu'un, c'est question de goût, toujours. Mais au moins... dans le fond du message, dans la réflexion, ça, on peut mettre là beaucoup de gens d'accord. Donc, c'est toujours ça, ma ligne directrice.
Vous connaissez la vie géniale de Jean-Luc Godard sur les débats à la télé ?
Ah, non.
Je vous passe l'accent parce que je suis très mauvais. Il dit « Les débats à la télévision, ça ne sert à rien, puisqu'à la fin, personne ne change jamais d'avis. »
Ben oui, c'est exactement ça.
Jean-Luc Godard. Romain Fraissinet avec nous, Culture Média continue. On va parler musique, on va parler des sorties cinéma. Un film notamment que Margot Barallon, totalement différent des méchants, dont Margot Barallon veut nous instruire. A tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Romain Fraissinet, il est à l'affiche du film Les Méchants, et c'est un des méchants, film de Mouloud Achour qui sort aujourd'hui, nous sommes mercredi. Margot Barallon, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Parmi les sorties cinéma du jour, c'est votre sujet, il y a notamment un film signé Mathieu Amalric, il s'appelle Serre-moi fort, et Margot, vous l'avez adoré ce film.
Oui. Mais je tenais d'abord à vous remercier, Romain Fraissinet, d'avoir mis une bonne ambiance dans ce studio avec votre film Les Méchants, parce que là, moi, je vais sérieusement la plomber, cette ambiance. Serre-moi fort, ça dure 1h37, et je crois bien devant avoir pleuré au moins 1h15. Donc l'histoire, c'est celle de Clarisse, mariée, deux enfants, qui se lève un matin pendant que toute sa famille dort encore. Elle prend ses clés de voiture et elle s'en va. Donc, enfin, sauf que je ne devrais pas vous raconter l'histoire comme ça, je vais plutôt vous lire le pitch du film. C'est Mathieu Amalric, le réalisateur, qui l'a trouvé. Et ça tient en une phrase, ça semble être l'histoire d'une femme qui s'en va. Mais sauf qu'elle ne s'en va pas vraiment.
Elle ne s'en va pas vraiment.
Voilà, et bien très vite, il y a des petites choses qui clochent ici et là. Alors, je ne veux pas trop vous en dire, mais il se peut, peut-être, que cette femme s'invente une fuite parce que la vie, la vraie, est trop insupportable. Et c'est sa douleur et tout ce que cette femme, Clarisse, va déployer pour tenter d'y survivre, qu'explore le film. Film adapté d'une pièce de théâtre au départ, écrite par Claudine Galéa. Écoutez Mathieu Amalric.
Un ami voulait la monter. Et la vie a fait qu'il me l'a tendue comme un adieu. Voilà. Et je l'ai lu dans le train et j'ai pleuré. Voilà, c'est tout. J'ai pleuré. Sans me dire que j'allais faire un film avec ça.
Et alors finalement, il va le faire, ce film magnifique, parce qu'il avait très envie de tourner un mélodrame. Mais alors attention, c'est pas du tout un film larmoyant. C'est pas un film dans le pathos, j'insiste bien là-dessus. Il s'en dégage au contraire une incroyable douceur, beaucoup de lumière. Et surtout, Amalric fait confiance à son spectateur pour démêler lui-même les fils de l'histoire. Ce qui est au passé ou au présent, réel ou imaginé, il n'y a aucun artifice, aucun effet de manche. Juste à la fin, un film qui tape au ventre.
Tout le travail travail, c'était d'arriver à ce que ce soit des idées sensuelles, j'allais dire, que ça passe pas par la tête. C'est ça, c'est comment diluer ce qui se passe dans le cerveau, les questions qui deviennent en fait que des sensations.
Voilà un cinéma de sensations produite par la musique aussi, puisqu'en fait la fille de Clarisse est pianiste, elle est d'ailleurs jouée par une jeune pianiste, et donc le film est traversé par les morceaux de Beethoven, Debussy, Rameau et bien sûr Chopin. Et puis les sensations viennent aussi évidemment de l'actrice principale Vicky Krieps. C'est une luxembourgeoise qui illumine tous nos écrans depuis Phantom Thread, le film de Paul Thomas Anderson. Mathieu Amalric est incapable de dire comment il l'a choisie. Il a écrit son film et elle lui est juste, dit-il, apparue comme une évidence. Et pour les spectateurs aussi, croyez-moi, Vicky Krieps est une évidence dans ce merveilleux film, Serre-moi fort.
Margot, peut-être une autre proposition pour sécher nos larmes.
Oui, quand même. Les vôtres. J'ai pensé à vous, un très joli documentaire qui est sorti la semaine dernière, mais qui est toujours en salle et qui va vous faire sourire. Alors, rien à voir. Là, ça s'appelle Gogo. Et Gogo, en fait, est une femme kényane et c'est la plus vieille écolière du monde.
Je m'appelle Priscilla Sitiene. J'ai 94 ans. Je suis une élève de CM2.
Combien font 4 fois 3 ?
60.
Concentre-toi un peu, Gogo.
J'ai du mal à entendre. Quand j'étais enfant, je devais travailler dans les champs et surveiller les vaches. Et puis, en ce temps-là, l'école, c'était pas important.
Voilà, donc on va suivre Gogo, réviser ses maths et son anglais, mais aussi, et c'est ça évidemment qui est intéressant, la regarder se battre pour l'éducation des petites filles. Alors c'est réalisé par Pascal Plisson, à qui l'on doit Sur les chemins de l'école. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un documentaire qui avait obtenu le César du meilleur documentaire en 2014. Là, Gogo, c'est plein d'espoir et de sourire, et ça fait beaucoup de bien après Serre-moi fort.
Merci beaucoup Margot Barallon, donc Gogo et Serre-moi fort. Juste un mot sur Serre-moi fort, vous dites que ce n'est pas un film larmoyant, vous avez pleuré une heure et qu'est-ce que ça aurait été si c'était pas larmoyant ? Si c'était larmoyant,
pardon. Ça m'aurait pas fait pleurer, justement. C'est parce que c'est doux et parce que c'est très intelligent qu'on pleure. Pas parce qu'on essaie de vous tirer des larmes, je pense. Je crois que Roman Frécinet est d'accord avec moi.
Mais ouais, moi aussi, j'ai très bien compris ce que vous vouliez
exactement, dire. Exactement, des larmes, ça vient pas se chercher. Voilà, c'est comme le rire, en fait. Il faut que ce soit un peu un réflexe. C'est là où on est content que la personne nous ait fait rire ou nous ait fait pleurer. On n'a pas l'impression qu'elle nous a obligés.
C'est le genre de film qui pourrait vous tenter ou qui vous tente.
Moi déjà, je suis un très très grand fan de Mathieu Amalric. Moi, je trouve que c'est l'un des plus grands comédiens français actuellement. Je le trouve d'une justesse redoutable, d'une profondeur folle. Et oui, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas en fait, oui exactement. Mais je vais voir ce que me propose demain. Je suis déjà très heureux d'avoir participé à mon premier film. Pour le moment, je trouve ça cohérent de le faire dans la comédie, surtout une comédie comme Les Méchants, qui a beaucoup de sens, qui respecte l'intelligence des gens et qui dit quelque chose, qui ne veut pas juste faire rigoler de manière un peu trop... trop superficiel, et on verra ce que me propose la vie demain.
Je l'ai dit, il y a du sens dans Les Méchants. Vous allez faire quoi tout à l'heure à midi ?
Alors à midi, j'ai une interview téléphonique, je raconte ma vie toute la journée à des gens.
Est-ce
dans
que
des
vous allez regarder les chiffres ? Normalement, on regarde les chiffres de la première salle, la première...
La projection de 9h.
Je devais normalement être à 9h au Hall aujourd'hui, parce que c'est la tradition, le 9h des Halles. Et ouais, mais j'ai préféré être avec vous parce que vous m'avez fait l'honneur de m'inviter.
Vous restez avec nous, Roman Frécinet. On parlait de musique. Il y a beaucoup de musique aussi dans Les Méchants et de la bonne. Stéphanie Loire avec nous. On va parler du projet musical, le nouveau projet de Grand Corps Malade. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blandel.
Beaucoup de musique dans Les Méchants et de la bonne, film de Mouloud Achour qui sort aujourd'hui. Parmi les têtes d'affiche, Roman Frécinet qui est dans ce studio avec Stéphanie Loire. On va parler musique. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Philippe.
Bonjour, il y a quelques minutes, vous nous parlez de Grand Corps Malade aujourd'hui.
Exactement, je vous parle de Grand Corps Malade parce qu'il vient, d'ailleurs avant de vous dévoiler son nouveau projet musical avec lequel il revient, j'aimerais revenir sur l'homme, tant qu'à faire, Grand Corps Malade, l'individu, et puis l'artiste aussi, parce que souvent un artiste et un homme, ça cohabite dans le même corps. On va parler de Grand Corps Malade, qui est votre ami d'ailleurs, Roman Frécinet.
Exactement, c'est quelqu'un qui est assez extraordinaire, d'une sagesse folle, d'une simplicité incroyable.
Et puis qu'il y a beaucoup de talent, Grand Corps Malade. Ouais. C'est le nom d'artiste de Fabien Marceau. Alors son destin, il a été contrarié à l'adolescence par un accident dans une piscine, dont il garde des séquelles qui le contraignent à marcher avec une béquille. Dès ses débuts, il se raconte dans ses textes avec beaucoup de sincérité.
J'ai oublié d'être sage, j'ai oublié d'être prudent, j'ai oublié de me ménager, je me suis cassé les dents. On m'a dit qu'on ne pouvait pas être et avoir été. Moi j'ai oublié de faire attention à moi une nuit d'été. J'ai oublié ce que c'est de courir derrière un ballon. J'ai oublié d'être fort comme Achille et son talon. J'ai oublié de remercier mes parents pour tout ce qu'ils ont fait. Mais je suis pas doué pour
ça. Ça, c'était les débuts. Ensuite, à cet accident, il abandonne ses projets de carrière dans le sport et il transcende son handicap pour se reconvertir dans la poésie et le rap. Mais de toute façon, le rap, c'est par essence de la poésie, surtout quand Grand Corps Malade s'en empare avec sa prose du quotidien pour déclarer son amour à celle qui partage sa vie, par exemple.
Parce qu'avec toi, le temps a pris de nouvelles dimensions. Que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction. Parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments. Et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment. Parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop. Et que moi je sais que mes deux mains ne se lasseront jamais de ta peau. Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que 10 ans c'est tellement long. Et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom. Parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux. Parce que le vent éteint une petite flamme mais attise un grand feu. Parce qu'on s'est tant rapproché que nous.
C'est mieux qu'un emoji cœur soufflé quand même. Ouais. Envoyé à sa chérie, non?
C'est là, c'est trop puissant. Je connaissais pas ce titre, c'est émouvant.
Ah, magnifique. Ouais,
j'adore. Je trouve que c'est la plus belle définition d'un amoureux ou d'une amoureuse. Je trouve quelqu'un qui fait que vous avez plus peur le dimanche soir. Ah
ouais. C'est vrai. Bah, le quotidien, voilà, le quotidien qui s'installe dans l'amour, c'est joli. Voilà, j'ai envie de pleurer.
Ouais,
comment on fait maintenant?
On enchaîne, on a un texte.
Des images tellement simples et des mots simples, mais tellement précis, tellement forts.
C'est la justesse, Grand Corps Malade. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il s'est fait une place dans la littérature, dans le cinéma aussi. Il a fait deux films, un patient, la vie scolaire. Il a sorti le slam de l'ombre. Mais avant tout, ce qu'il fait depuis bientôt 10 ans, eh bien, c'est de la pop. C'est un musicien. Il met de la pop dans ses textes, de la pop dans le rap. Il traverse tous les styles musicaux. Et c'est ce qu'il a fait avec son album Mesdames, un disque de duo dans lequel il rend hommage aux femmes et dénonce les inégalités de genre qui persistent. Parce qu'avec Grand Corps Malade, la forme s'associe toujours au fond. On l'écoute sur le titre Pendant 24 heures avec la rappeuse Suzanne.
J'enverrai un mail au taf en faisant les courses à Carrefour. J'aiderai les enfants au devoir en sortant la quiche du four. Avec eux, je serai joyeuse avec mon mec femme fatale. 24 heures dans la peau d'une femme, je comprendrai la charge mentale. À 16h35 pile, j'arrêterai de travailler. Vu qu'après, quand t'es une femme, eh ben, t'es plus payé. Je sortirai en jupe quelques instants dans les transports pour comprendre l'essence même du hashtag balance ton porc.
Un disque qui s'est vendu à plus de 350 000 exemplaires en France, auquel il offre un nouveau visage aujourd'hui avec une réédition qui sortira vendredi, juste là. Il en dévoile des nouveaux duos au compte-gouttes. Une nouvelle édition dans laquelle on va retrouver Des Jambeaux. Vous le connaissez ce titre-là, Roman Fresnay, sur l'album Mesdames avec Oshi.
Ah, je le connais pas celui-là.
Eh ben, on écoute un extrait tout de suite.
Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on doit écouter ceux qui ont du talent, qu'on des tripes, qu'on des couilles, qu'on la dalle, ces petits auteurs gratteurs de guitare accablants. Nous, ce qu'on veut, c'est du beau, c'est du brillant, c'est du propre, c'est du lisse, c'est du sublime. Nous, ce qu'on veut, c'est le retour des belles gueules pour remplir le papier glacé des magazines. Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on écoute les paroles des chansons? On a perdu la notion des beaux mâles, l'époque où on lançait de très beaux garçons. Tu sais écrire des paroles, c'est très bien, mais ton petit grain de voix, on s'en fiche. S'il te plaît, va donner tes chansons à celui qui sera plus joli sur l'affiche.
Bon, un titre qu'il a écrit en soutien à la chanteuse Oshi qui avait été victime de commentaires sexistes et tristement communs dont sont souvent victimes les femmes au quotidien.
On se souvient très bien, grosse polémique.
Exactement. Cette réédition de l'album Mesdames, elle s'annonce riche en collaboration artistique. Grand Corps Malade a déjà dévoilé une liste d'artistes que nous allons retrouver dans cet acte 2 de Mesdames. On sait déjà qu'on y croisera Mélodie Gardot, la voix Soul, chaude, Laila Bekti, oui, elle va chanter, et Kimber Rose, avec qui il partage Nos plus belles années. C'est un single qui est vraiment de la trempe de ceux qu'on entend une fois et qui rentre immédiatement dans l'esprit. Enfin, ça s'appelle un tube, hein, tout simplement. On va d'ailleurs l'écouter en entier après sur Europe 1. Mais on va faire une émission spéciale.
Oui, alors il y aura quoi? C'est demain soir.
C'est demain soir avec Grand Corps Malade, de 20h à 23h. Il y aura ses amis, il y aura des lives, il y aura un live d'Oshi, notamment Ben Mazoui, on va parler cinéma, il y aura Laila Bekti.
Ouais.
Ça va être une chouette soirée. Passer, hein, Philippe, pour les gens de la maison, c'est Open Bar Café.
Open Bar, ouais. Et puis ouais. Je veux dire, Roman Fresnay, il a qu'à faire un son, voilà. On bah écoute, oui. Merci beaucoup Stéphanie Loire.
Merci,
qu'est-ce qu'on
Philippe.
Écoute alors?
On écoute Nos plus belles années, c'est Kimber Rose et Grand Corps Malade sur Europe 1.
S'il te plaît, ouvre les yeux.
Prisonnier du doute, pas vraiment du passé. Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie mon panel de prolo. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années. Un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur. Déconfiner l'espoir, pour continuer d'y croire, je t'envoie un faire-part. Le faire-part du mariage entre nostalgie et destin. Quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin.
Je veux retrouver l'attrait de notre vie d'après. Il est temps d'entamer. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées nos plus belles années, l'avenir. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées nos plus belles années? L'avenir nous les rend.
Où sont passées? Où sont passées?
Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
Aux plus belles années, c'était Grand Corps Malade et Kim Burrow sur Europe 1. Dans un instant, Marc-Antoine Lebret pour ses stories où les stars, vous le verrez, ont beaucoup de choses à dire. Et puis évidemment, notre invité, Roman Frécinet, c'est la dernière partie de Culture Média. A tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Avec le comédien et humoriste Roman Frécinet à l'affiche du film Les Méchants, premier film de Mouloud Achour qui sort aujourd'hui. Quand j'étais petit ou quand j'étais ici à Canal+, c'était les mêmes locaux, quelqu'un n'était pas drôle, on disait dis donc, t'as pas fait l'école du rire toi. Pourquoi j'en parle? Parce que vous avez vraiment une histoire très particulière, Roman Frécinet, à l'âge de 18 ans, vous avez le bac S en poche. Vous partez à Montréal pour vous former pendant 2 ans dans la très sérieuse École Nationale de l'Humour. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Racontez cette école, qu'est-ce qu'on y apprend? Comment ça se passe?
Eh ben c'est en fait, on apprend surtout à devenir quelqu'un qui travaille très fort. On apprend à devenir exigeant, à essayer d'avoir une démarche artistique. Voilà, c'est des gens qui considèrent l'humour comme un art et qui font des artistes de l'humour.
Mais comment on apprend à être drôle?
On n'apprend pas vraiment à être drôle. On apprend à travailler, on apprend à être professionnel. Il y a des auditions très compliquées pour rentrer. C'est vraiment un conservatoire.
En fait, alors c'est assez simple. Ça veut dire qu'il faut déjà être drôle pour rentrer.
Ouais, ou il faut qu'il y ait une petite flamme, quoi. Ouais. Il faut qu'il y ait quelque chose. Après, bon, c'est jamais aussi précis que ça, la comédie.
Et ensuite, il y a des cours de quoi? Parce que si l'enseignement dure 2 ans, c'est pas pour rien.
Il y a des cours d'improvisation, des cours de jeu, il y a des très longs ateliers d'écriture. Il faut écrire un nouveau 5 minutes de blague par semaine. C'est très très intense. Après, moi, je suis arrivé à Montréal, je me suis retrouvé dans cette école un peu par hasard, en vrai. Moi, j'allais à Montréal parce que je savais qu'c'était les plus forts en francophonie en humour, et je voulais faire ça de ma vie.
C'est là-bas où vient le Festival Juste pour rire,
exactement.
Par exemple.
Exactement, mais c'est d'ailleurs lié au Festival Juste pour rire, cette école. C'est la volonté de la même personne, l'impulsion. D'ailleurs, je salue Louise Richer, qui peut-être nous écoute, qui est la directrice de cette école et fondatrice de l'école.
Elle nous écoute, je viens de recevoir un SMS, elle nous écoute.
Elle est extraordinaire. Et non, ils ont une vraie culture de la blague à Montréal. Et moi, au final, je me suis retrouvé dans cette école parce que j'allais plus du tout à l'université là-bas et qu'il me fallait un visa. Et j'y croyais pas au début. Je me disais, on peut pas apprendre à être marrant.
Bah oui.
Et au final, c'est pas ça l'objectif. On t'apprend pas à être marrant. On t'apprend à devenir quelqu'un qui travaille fort. Et je pense qu'une fois que t'as ça dans la tête, normalement, ça glisse.
En fait, c'est comme le journalisme, il faut travailler. Mais L'Olympia, vous deviez y jouer votre spectacle. Alors, la pandémie, le confinement est passé par là.
Ouais.
J'ai lu que ce serait du 22 au 24 novembre. C'est une fausse joie, vous confirmez la date ?
22, 23, 24 novembre, si tout se passe bien.
Quelle différence entre ce que vous faites, je ne vous ai pas, jamais vu sur scène, ce que vous faites sur scène et ce que vous faites dans Click, par exemple ?
C'est de la chronique, l'écoute elle est différente, les gens ils sont derrière un écran, je mets plus d'accent sur le fond que sur la comédie, même si j'essaie d'être marrant, et puis j'ai une semaine pour l'écrire, alors que le spectacle, en vrai de vrai, je lâche un peu plus le vrai moi, tu vois, il y a des mots qui sortent du langage courant, voilà, disons que c'est un peu plus vrai, enfin pas plus vrai, mais plus... Voilà, on est plus axé sur le rire. On rit.
C'est alors comme les méchants.
Je raconte un peu ma life.
Comme les méchants qui est impossible à résumer. Sortir à Paris a écrit « Difficile de vous résumer le spectacle de Roman Frécinet, tant il y a à boire et à manger, car il se passe beaucoup de choses dans sa tête. »
Ouais.
Vous êtes combien dans votre tête ?
Ah, c'est un nombre incalculable. Il n'y a pas de recensement, ça coûtait trop cher. Ouais.
Vous ne parlez pas de politique ?
Pas vraiment, mais je pense que dès qu'on défend une idée, ça devient politique. En fait, j'aime pas parler des gens, j'aime pas dire des noms. Je préfère parler d'idées, je trouve que ça amène plus loin.
Merci Roman Frécinet, ça donne vraiment envie, vous savez vraiment vendre vos spectacles. Je me tourne vers vous Marc-Antoine Lebray, bonjour.
Bonjour.
C'est l'heure des stories de Lebray, des personnalités qui sont venues pour s'adresser à notre invité Roman Frécinet, à commencer par un collègue à vous, Fabrice Eboué.
Ouais, salut Roman. Je veux dire, vous êtes le troisième humoriste à venir dans cette émission et pas des moindres. Hein, je veux dire, il y a vous, Kad Merad et Jean-Louis Debré avec son sketch sur Giscard et Chirac, quoi, je veux dire. Non, mais moi, j'adore cette émission Culture Média, je viens de cracher, c'est pas grave. Non, il y a des jeunes de Canal+, qui côtoient des personnes âgées de Canal+, quoi. Non, j'ai l'impression d'assister à un live de Samuel Etienne sur Twitch, quoi. Non, c'est là qu'on se rend compte que des fois, le talent saute une génération, quoi. Non, je rigole, je dis ça juste pour être d'accord avec le titre de ton film Les Méchants, quoi. Bon, et puis, c'est faux ce que je dis, des fois, c'est une génération qui saute une génération. Mais bon, on n'est pas dans un repas de famille chez Richard Berry, quoi.
Oh. Igor Bogdanov a tenu à vous donner un conseil, Roman.
Bonjour. En revanche, excusez-moi Philippe, mais je ne suis pas Igor, mais Grishka. Enfin, je crois. Non. Si, attendez. Oui, c'est ça, je suis bien Grishka. Figurez-vous que je me suis rendu compte que j'étais Grishka en touchant mon menton, qui est parfaitement rasé, alors que celui d'Igor, non. Car son jardinier est malade et n'a donc pas pu venir passer la tondeuse à gazon sur ses 8 hectares de menton. Mais bref, mon frère et moi, et lui et eux, et nous et on, je voulons donner un conseil à Roman, qui fait des débuts prometteurs au cinéma. Et ce conseil, c'est de suivre notre exemple et de ne jamais choper la grosse tête. Contrairement à Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Dis donc.
C'est gratos.
C'est vraiment gratos. Didier Deschamps est venu vous demander quelque chose.
Oui, bonjour. Non, juste, je me demandais si par hasard, Roman Frécinet ne voudrait pas intégrer l'équipe de France. Bah, comme en ce moment, mes joueurs sont bons qu'à faire rigoler le monde entier. Je me suis dit que dans ce cas, des humoristes étaient peut-être capables de nous qualifier pour le mondial. Voilà, bonne journée.
Ouais, ils ont gagné hier. Enfin, Marc-Antoine Lebray s'est mis dans votre peau en vous imitant.
Frère, j'ai vu un truc. J'étais dans une émission là sur Culture Machin. Je suis tombé sur un gars. Il était en face de moi. Il faisait ma voix et tout. Le gars était dans ma tête, mais devant moi. T'imagines, Mouloud ? Le gars, je le regardais, je me disais, le gars est fou. Et là, j'ai regardé mon chat, il m'a dit, je suis d'accord.
Bravo, bravo.
Merci Marc-Antoine Lebray, à demain. Merci à tous, c'est la fin de cette émission. Merci Roman Frécinet, vous avez passé un bon moment.
Ouais, je me suis régalé.
Ça se voit sur votre visage. Je le rappelle, à l'occasion de la sortie du film Respect, Stéphane Bern, tout à l'heure, à partir de 16h, va raconter le destin d'Aretha Franklin. C'est historiquement le vôtre. Et puis dès 20h dans Musique, c'est Stéphanie Loire qui va proposer une émission spéciale autour de cette figure qui était Aretha Franklin et qu'on écoute toujours. Nous, on se retrouve demain à 9h dans Culture Média avec le journaliste animateur Thomas Hugues qui démarre sa nouvelle émission politique Sens Public dès lundi sur Public Sénat et puis la comédienne Isabelle Carré pour une comédie hystérique, non, historique, j'ai pas vu le film encore, je le verrai ce soir, je vous dirai si c'est hystérique,
non,
ça s'appelle
super.
Délicieux, l'histoire d'un cuisinier qui invente le premier restaurant. Juste après le flash, Julia Vignali et Mélanie Gomez qui n'ont pas la grosse tête, je vous défends les filles.
Oh, merci.
Bien fait pour vous, quel est le problème du jour ?
Eh bien on va aider les parents que nous sommes à bien choisir les activités extrascolaires de nos enfants. enfants. Et puis Mélanie, un sujet sensible,
oui,
comme on dit.
On parlait d'intimité, de santé au masculin. Ça va vous intéresser, Philippe, j'en suis sûre.
Bah, et les deux autres qui sont là. Hein.
Oui, bien sûr.
Oui, enfin bon. Ah, ouais.
C'est plus de votre génération.
Oui, c'est voilà. Moi, je suis le plus âgé de la bande. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. À demain.